Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur.
Chères auditrices, chers auditeurs d'Element Air, mon cher Nico, bonjour, ravi de vous retrouver en ce joli jeudi de début d'été, de période estivale. Alors, évidemment, il y a le soleil, il y a les terrasses, on est dehors, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir se retrouver après quand même deux années un petit peu plus compliquées. Mais il ne faut pas oublier, même s'il y a, on dit toujours il y a un mais, mais c'est pas du mais négatif, il ne faut pas oublier qu'également nous sommes entourés de nos végétations, de la faune, mais aussi de la flore, et de cette flore qui quelquefois peut être un petit peu invasive, elle peut être aussi un petit peu, je dirais, gênante. Je pense à tous ceux qui sont victimes d'allergies, tous ceux qui ont de l'asthme et qui le voient s'aggraver par ces périodes où les pollens sont plus importants. On a des plants plus allergènes que d'autres. On a également une diffusion par le vent selon la taille des pollens qui va aller plus ou moins loin, rentrer plus ou moins facilement dans nos bâtiments. Et notamment dans ces périodes, il y a également des actions pour faire la chasse aux dans le bon sens du terme, aux plantes allergisantes, telles par exemple que l'ambroisie, puisqu'on en France, on le voit depuis le 19e siècle, où elle est à peu près la période où elle est apparue, elle n'a cessé de croître. On a historiquement toute cette partie d'ambroisie qu'on retrouve sur le couloir rhodanien notamment, et puis plus principalement le sud de la France. Et si vous allez consulter un petit peu l'histoire de l'ambroisie, vous allez voir que cette carte et ces diffusions que l'on retrouve, notamment... on va s'apercevoir que ces dernières années, elle prend vraiment une grande ampleur et il est nécessaire de pouvoir la connaître, y faire attention et puis prendre les mesures qui s'imposent par rapport à cela pour la santé et également pour l'extérieur. Pour ce faire aujourd'hui, je reçois Bruno Tudal. Bruno Tudal, bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour Nicolas, ça va bien, merci.
Ça va très bien. Alors Bruno, vous êtes ici, vous allez avoir la casquette du CMEI, conseiller médical en environnement intérieur pour nous aider. Vous faites partie également de l'association du réseau de surveillance aérobiologique, oui. Qui est extrêmement important et dont son travail, je dirais, dans ses travaux et ses travaux principaux, je dirais, ces pollens, cette diffusion et les alertes sont également extrêmement je dirais, son primeur pour agir, et notamment pour agir, que va-t-on faire, mais surtout, quels sont, j'ai parlé de l'ambroisie, on en reviendra un petit peu plus longtemps après, quels sont les types de pollens ou les types de plantes qui vont être particulièrement allergisantes?
Alors, ce qui est important déjà, c'est de comprendre que on touche beaucoup de personnes allergiques avec ces informations, puisque on a à peu près 20% des enfants aujourd'hui qui sont allergiques au pollen et 30% des adultes. Donc, on va dire globalement, c'est entre une personne sur trois, une personne sur quatre. Et en 2050, on prévoit que ça sera une personne sur deux. Donc, ça augmente vraiment très fort et notamment chez les enfants. Les plantes qui sont concernées, en fait, il y a deux types de plantes. Il y a les plantes qui font des fleurs qui vont plutôt attirer les insectes, ce qu'on appelle les plantes entomophiles, et qui, elles, vont avoir du pollen qui va être assez lourd et qui va pas trop se déplacer dans l'air. Et la deuxième catégorie, qui nous intéresse, c'est les plantes anémophiles, qui ont un pollen très léger, qui n'est pas déplacé par les pollinisateurs, qui est déplacé uniquement par le vent. Et donc, ce pollen-là va pouvoir parcourir des dizaines, voire dans certains cas, des centaines de kilomètres, et finalement reste en suspension très longtemps dans l'air, et c'est pour ça qu'on le respire. Donc, on a certaines plantes qui sont identifiées comme ayant un pollen plus allergisant, à la fois parce qu'on a des grandes quantités, mais aussi parce que les caractéristiques même du grain de pollen font que notre système immunitaire va réagir plus ou moins fort.
Alors, pour se rendre compte de ces pollens que l'on va retrouver et qui sont disséminés par le vent, on a quand même cette image où on regarde les véhicules au moment du printemps et qui sont bardés d'une petite pellicule qui est jaune-verte. Là, c'est la partie visible de ces pollens puisqu'il faut qu'ils se déposent quelque part pour qu'on s'en rende compte. Mais sinon, en termes habituels, dans l'air, on les voit pas du tout. C'est d'autant plus pernicieux que c'est à partir du moment où on commence à avoir, on parlait de l'ambroisie, on va avoir les rhinites, on va avoir l'asthme, on va avoir la conjonctivite aussi qui fait des toux plutôt rapprochées et importantes. Comment, je dirais, sans prémunir, on va se demander un petit peu quelles sont les zones au niveau des pollens et comment on peut reconnaître ces ondes. Est-ce qu'il y a des outils à l'heure actuelle, à la disposition de tout un chacun pour être mieux informé, plus informé au moins?
Oui, tout à fait. Alors, le gouvernement, depuis 2016, a identifié trois organismes qui étaient reconnus pour informer justement sur la pollinisation, que ce soit sur les mesures de pic ou sur la prévision. Et donc, on a tout d'abord le Réseau national de surveillance aérobiologique, le RNSA, dont je fais partie je suis membre du conseil d'administration. Et on a également Atmo France, qui est l'organisme officiel de surveillance de la pollution de façon générale au niveau national. Et le troisième, c'est l'association des Pollinariums Sentinelles de France. Les pollinariums étant, on va dire, des outils pédagogiques justement pour pouvoir identifier à quel moment les pollens vont sortir un petit peu avant que ça sorte. Et donc, le RNSA, aujourd'hui, c'est un réseau d'à peu près 80 capteurs en France. Donc, globalement, on en a à peu près un par département. Et ça nous permet d'avoir des données assez précises localement sur chaque espèce végétale qui est suivie. Donc, par exemple, à la fin de l'hiver, on a les cyprès qui vont être parmi les premiers à sortir, notamment sur le pourtour méditerranéen. Puis petit à petit, on a d'autres espèces comme les chênes, les bouleaux, etc. Et on va avoir certaines espèces qui vont se retrouver, ou familles d'espèces qui vont se retrouver pratiquement tout au long de l'année, comme les graminées. Et qui sont vraiment très importantes à suivre parce que ça va varier beaucoup d'un secteur géographique à l'autre et d'une période à l'autre de l'année.
On le voit d'ailleurs, si on reprend pour mémoire la carte de France au moment des épisodes polliniques ou plutôt d'allergisants possibles, le premier qui arrive, vous parliez du cyprès, évidemment c'est celui-ci, et on voit bien que les départements sont symbolisés en rouge tout le long de la Méditerranée parce que c'est là où on les retrouve le plus et puis c'est la première progression qui se fait ensuite sur la France. Donc c'est vrai que on dit on est dans le sud, on voit les cyprès, mais quelque part ces cyprès, ils ont aussi un impact extrêmement extrêmement important. Alors en ce qui concerne ces pollinisateurs allergisants, on va parler de l'ambroisie un petit peu plus parce que je le disais au début de l'émission, c'est une plante invasive qui a vraiment aussi une colonisation assez rapide. C'est une plante qui va mourir après avoir fleuri et disséminé ses graines, mais par contre ces graines elles vont ressortir l'année d'après. Donc il y a les campagnes, on le sait, elles ont lieu au mois de juin-juillet pour les identifications. Par contre, vous allez nous parler de quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que les identifier, c'est-à-dire on se promène, on les voit, elles ont tendance plutôt à être au bord des routes, elles ont tendance à aller dans les lieux où on a, je dirais, sur des sols ouverts, où la terre a été travaillée, donc plutôt dans l'agriculture, on les retrouve, mais c'est pas suffisant. Alors, je sais que l'ARS a entamé une réflexion et aussi une action vis-à-vis, en faisant le rapprochement des personnes qui sont atteintes d'allergies à cause de l'ambroisie, pour pouvoir identifier encore plus précocement et rapidement les lieux où on va la retrouver pour ensuite agir. Expliquez-nous, détaillez-nous cela un petit peu plus, Bruno.
Oui, tout à fait. Alors, en fait, pourquoi c'est important de faire ce travail-là? Parce que il faut savoir qu'en termes d'allergie au pollen, l'ambroisie, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Puisqu'on a à la fois des très grandes quantités de pollen, même si c'est localement, aussi un pollen qui a un niveau de potentiel allergisant à 5 sur 5. Vraiment, pour les personnes allergiques, c'est le pire qui puisse arriver. Nous, ce qu'on a mis en place avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine sur le département du Lot-et-Garonne, c'est de pouvoir informer les professionnels de santé des outils justement qui existent pour pouvoir faire le lien avec les patients qui ont des symptômes au mois d'août ou septembre, qui peut être lié à justement une réaction allergique au pollen d'ambroisie. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas finalement si c'est une allergie aux graminées ou à l'ambroisie, par exemple.
L'ambroisie, elle va être allergisante de quelle période à quelle période? C'est donc à peu près juillet jusque...
Alors, c'est plutôt début août. Jusqu'à mi-septembre. Ça dépend des années. En fait, plus il fait chaud au mois de juillet et plus le début de la pollinisation arrive tôt.
D'accord.
Voilà, si on a un mois de juillet très pluvieux, bah, ça sera plutôt mi-août, fin août, quoi.
Alors également l'ambroisie, vous parliez tout à l'heure des médecins qu'il faut associer, hein, vous allez nous dire de quelle manière précisément, mais il faut parler aussi de l'ambroisie et je dirais des allergies qui sont associées. Ce sont des traitements qui sont par des corticoïdes notamment, et on a aussi des traitements qui coûtent très cher.
Oui.
C'est une plante allergisante qui coûte cher au système de santé, et déjà à notre santé en premier lieu, mais aussi au système de santé. Peut-être un petit focus là-dessus, et puis parlez-nous ensuite de ce lien entre les médecins et l'action de l'ARS.
Oui, tout à fait. Alors pour l'instant, la seule étude vraiment là-dessus qui a été faite, c'est sur la région Rhône-Alpes, ou maintenant Auvergne-Rhône-Alpes, où on sait que, en fait, bon, même si c'est pas exhaustif, évidemment, mais c'est une estimation. On sait que déjà, rien que sur une région comme ça, on a plusieurs dizaines de millions d'euros qui sont engloutis chaque année dans la lutte contre l'ambroisie, par des hospitalisations, par des traitements antihistaminiques, etc. Donc, essentiellement, des coûts pour la sécurité sociale. Justement, aujourd'hui, on voudrait que ces diagnostics soient mieux réalisés, soient mieux pris en charge d'un point de vue médical, pour qu'on puisse arriver à faire le lien entre les symptômes du patient et là où l'ambroisie est présente, qu'on puisse aller la détruire, hein, et éliminer le foyer. Il faut savoir qu'il y a à peu près 10 000 signalements de foyer par an d'ambroisie en France.
Et finalement, c'est colossal quand même, hein, mais, oui, mais à l'échelle de tout ce que l'on retrouve, on est loin encore du compte de tout connaître.
Oui, oui, tout à fait. Et justement, en fait, jusqu'à maintenant, on faisait juste le signalement et ensuite essayer de mettre en œuvre la destruction du foyer, ce qui n'est pas toujours évident. Quand c'est sur un bord de route avec les services de l'État, ça peut être fait de façon assez simple. Et on a eu des expériences là-dessus qui étaient très intéressantes. Quand c'est dans une parcelle agricole, par exemple, si l'agriculteur ne veut pas le faire, même si aujourd'hui il y est contraint par la loi, c'est toujours compliqué d'envoyer les gendarmes chez lui parce qu'il n'a pas arraché son pied d'ambroisie dans le champ. Donc, voilà, la difficulté, elle est là, d'arriver à mettre en œuvre cette lutte, parce que pour l'instant, les gens ne se rendent pas forcément compte de l'impact que ça a. Donc nous, on voudrait que les professionnels de santé, qui sont un peu des sentinelles auprès des patients, fassent remonter un peu plus de données sur les symptômes et les risques allergiques pour que finalement tout le monde se rende compte de l'impact que ça a et qu'on arrive à réduire les expositions de façon générale.
Et justement, de ce biais, vous parliez, s'il y a une identification au bord des routes, les services de l'État s'en occupent. On a quand même affaire à des plantes, on le sait, au bord des routes, il y a des coupes plus fréquentes. Donc on a des plantes qui font 15, 20 cm de haut, qui peuvent aller à 50, 70 dans d'autres milieux et qui vont jusqu'à 2 mètres de haut. Donc quand on s'en occupe pas, on s'imagine bien l'impact et la différence d'impact de pollen d'une plante qui fait 15 cm de haut et une qui fait 2 mètres. On voit que le volume, je dirais, de pollen émis va être multiplié par 20, 30, 40 facilement. Par contre, est-ce qu'il existe déjà des outils ou des débuts d'action envers peut-être les agriculteurs ou envers tous ceux qui travaillent dans la campagne pour aider à l'identification et sensibiliser pour éradiquer cette plante, puisque c'est vrai que quand on se balade dans la campagne, on se dit la diversité, c'est source de nature par elle-même, d'en avoir beaucoup, mais après, quand on a pléthore de ces plantes, ça crée un problème. On peut faire un parallèle avec les algues vertes en Bretagne. C'est quand il y en a un petit peu, c'est pas trop gênant. Quand ça commence à couvrir des surfaces extrêmement importantes, c'est là où la quantité devient danger, finalement. Et là, on est dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui existe pour aider à la sensibilisation ou c'est une action naissante qui va être accentuée?
Oui, alors, en fait, il y a des outils qui existent depuis bientôt 10 ans, on va dire. On a plusieurs solutions pour arriver à s'informer et reconnaître la plante et savoir quoi faire. Donc, j'ai parlé du RNSA qui produit des outils et qui pilote aussi, notamment, qui copilote la plateforme Signalement Ambroisie. finalement -ambroisie.fr, sur laquelle on va retrouver finalement toutes ces informations pour savoir comment identifier la plante et qu'est-ce qu'on doit faire quand on l'a identifiée. Et surtout ne pas s'exposer, savoir à quel moment on peut l'arracher par exemple ou la couper pour ne pas s'exposer au pollen et faire une réaction, parce qu'on peut avoir des réactions assez violentes. Moi, je tiens quand même vraiment à avertir sur le fait que si on la détruit, justement, on en parlait en juin, juillet, c'est très bien. Si on attend le mois d'août, on peut s'exposer à une quantité de pollen très importante et faire une réaction allergique très importante qui peut mener aux urgences.
Est-ce que ces réactions également à toucher la plante ou proche, ça peut amener aussi à des réactions cutanées ?
Oui, oui, ça peut. Alors, en général, les réactions cutanées sont un peu moins graves. Le pollen d'ambroisie, en fait, comporte plein de petits piquants qui vont irriter les yeux, par exemple, ou le nez. Et ça va aussi faire réagir la peau chez les personnes les plus sensibles. Mais après, le plus grand risque, c'est vraiment quand ça rentre dans les bronches, quoi.
Ouais, évidemment, et puis quand ça rentre et que c'est de la petite particule irritante, bah, avant que ça ressorte et qu'on en soit libéré, bah, malheureusement, il va falloir une intervention, une aide, on le disait tout à l'heure, corticoïdes, antihistaminiques, les yeux, ça va être du collyre, et puis il y a des doses et des surveillances importantes, parce que ça peut amener à être, je dirais, en arrêt pendant pas mal de temps. Juste une petite précision, cette plante, elle ressemble à quoi ? Parce qu'on a parlé un petit peu de sa hauteur, là quelle couleur de... Alors les feuilles, on se doute, par la chlorophylle, ça va être vert, mais oui. La fleur par elle-même, quelle forme elle a ? Est-ce que c'est une tige ? Est-ce que c'est une fleur ?
Oui, alors on parle de l'ambroisie, mais en fait, on devrait dire les ambroisies, puisque même s'il y a une espèce dominante, on a trois espèces d'ambroisie présentes en France. Donc l'espèce dominante, c'est l'ambroisie à feuilles d'armoise. Donc souvent, on peut la reconnaître si on compare à l'armoise, qui est une plante assez commune, notamment dans les fossés, par exemple. Par contre, les feuilles d'armoise, donc, qui sont assez découpées, vont être blanches dessous, alors que les feuilles d'ambroisie sont vertes dessous. Donc ça fait déjà une première différence. En général, les feuilles d'ambroisie sont un petit peu plus arrondies. Ça fait en fait, au départ, au début du développement de la plante, ça fait plutôt des tapis couvrants autour du mois de mai. On a vraiment, lorsque les premières feuilles sortent, elles vont occuper l'espace, donc elles vont vraiment couvrir le sol et on va avoir ce vert assez clair qui va ressortir. Et avec la chaleur du début de l'été, la plante va monter, les feuilles vont un petit peu se réduire et laisser place vraiment à des très grandes tiges. Et petit à petit, les épis vont se former donc sur le mois de juillet pour fleurir au mois d'août. Donc on va avoir en haut des tiges des épis de plusieurs centimètres qui vont faire des toutes petites fleurs jaunes. C'est vraiment tout petit, hein. Ça ne fait pas des épis très jaunes, mais quand on s'approche de près, on voit que c'est un petit peu jaune et c'est les couleurs la couleur du pollen en fait.
D'accord, et donc quand on a la sensation d'avoir vu peut-être de l'ambroisie, ou à tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, regardez, allez sur le net, regardez un petit peu à quoi ça ressemble, et si vous en voyez, n'hésitez pas à alerter, ça c'est important, de manière à ce qu'elle soit, je dirais, traitée, si j'ose dire, de manière, et vous éviterez à beaucoup de personnes autour de vous d'être atteint. Ça impose quelques contraintes également. Là, on parle, c'est au bord des routes, on parle que ça se retrouve, je dirais, au niveau des cultures ou des champs. On va le retrouver dans les villes également, l'ambroisie ?
Alors, ça peut arriver dans les villes, dans les jardins, ça arrive assez fréquemment, mais on va dire que c'est des tout petits foyers, mais ça compte quand même, parce que comme les graines d'ambroisie vont se retrouver dans les cultures tournesol notamment, ensuite, les graines de tournesol peuvent être mélangées pour faire des graines pour les oiseaux. Et quand on met des sachets de graines pour oiseaux dans son jardin, finalement, des fois, on a de l'ambroisie qui se retrouve dedans. Les oiseaux ne vont pas manger la graine, elle va se retrouver au sol. Et donc, l'année suivante, on a de l'ambroisie qui pousse dans le jardin sans savoir d'où ça vient. Donc ça arrive assez fréquemment. Et ensuite, ça peut se propager un petit peu, puisque c'est vrai que c'est favorisé par la compétition. Hein, lorsque on met la graine d'ambroisie au milieu de plusieurs autres, finalement, elle va avoir tendance à prendre le dessus. Et rapidement.
Vous disiez, donc elle a aussi, on la considère comme une espèce invasive, c'est qu'à un moment donné, elle a une expansion hein, qui se freine pas facilement du coup.
Exactement. En fait, son point fort à cette plante, c'est qu'elle s'adapte à tout. Elle s'adapte aux conditions météo, elle s'adapte à l'espace, elle s'adapte à l'eau. En fait, quel que soit le facteur limitant, elle aura tendance à être meilleure que les autres. Et vraiment, c'est-à-dire que si on coupe l'herbe régulièrement, les autres espèces vont avoir du mal à repousser, alors qu'elle va repousser très vite. Et la meilleure façon de l'empêcher de se développer, c'est justement d'avoir d'autres espèces qui sont déjà développées à côté, c'est-à-dire justement de ne pas couper l'herbe. Et comme ça, ça va la gêner, elle va avoir un peu plus de mal à se développer. Mais c'est vraiment des méthodes de lutte qui sont assez compliquées.
Donc en gros, on a quand même un gros travail vis-à-vis de cette ambroisie. Un, on va l'identifier. Deux, ça va nous aider par le biais des personnes qui sont atteintes de faire un recoupement avec l'ARS, les CMEI, également en entrant dans la boucle et les médecins. Trois, on va avoir nos sols, un peu de je sais que la permaculture a quand même, vous le disiez, vient favoriser le non-développement le développement plus difficile de l'ambroisie. Donc là, c'est aussi la permaculture, on le voit ici, a vraiment un avantage. On va avoir également une considération à prendre, c'est que toutes ces diffusions de pollen de manière forte, faut penser à nos bâtiments. Peut-être que dans les systèmes que l'on a d'aération, de ventilation, faire attention aussi à cela, et peut-être commencer à penser à filtrer aussi l'air qui va rentrer dans nos bâtiments si on a des phénomènes allergisants aussi forts. Hein, je vous invite à aller regarder la carte. L'ambroisie, c'est quand même un développement sur ces dernières années qui devient de plus en plus couvrant sur le territoire national, pour lequel il faut faire extrêmement attention. Bruno, pour le mot de la fin, merci beaucoup de toutes ces précisions, c'est précieux. Pour le mot de la fin, comment encore se renseigner au mieux sur l'ambroisie pour agir, bien évidemment?
Alors, je vous invite à vous abonner à la newsletter du RNSA et aux alertes du RNSA, le Réseau National de Surveillance Aérobiologique, et également à suivre les pics de pollution et de pollen sur Atmo-France. Voilà, qui vont pouvoir vraiment vous indiquer quelles sont les périodes les plus critiques pour les personnes sensibles, et sachant que justement la pollution et les pollens sont très liés, puisque la pollution vient aggraver les réactions aux allergies aux pollens.
On en parlait sur l'émission précédente avec le docteur Pierre Souvet notamment, c'est les particules qui vont agglomérer avec d'autres, donc là on va retrouver qu'ils vont agglomérer avec les pollens, qui vont rentrer plus profondément et fixés plus longtemps aussi dans notre organisme, qui vont pas arranger tout cela. On va faire très attention à cela, on va continuer de se renseigner, on est là pour, je dirais, mettre en avant les bonnes pratiques, mettre en avant le bon sens en positivant, bien entendu, on n'est pas là pour parler négativement, dire on va tous tomber malade à cause de l'ambroisie, mais il faut y prendre en compte, et il faut surtout, quand on a des symptômes de toux, de rhinite forte, de problématiques respiratoires, faut pas que ça s'aggrave. Quelqu'un qui est asthmatique, il va avoir une grosse difficulté par rapport à ce pollen-là ou à d'autres. Il faut pas hésiter à aller se renseigner, consulter le cas échéant pour traiter cela au mieux. Bruno Tudal, merci à vous. J'espère vous retrouver bientôt dans une autre émission, comme c'est le cas pour tous les invités. Chères auditrices, chers auditeurs, bien entendu, prenez soin de vous. Profitez de l'extérieur, évidemment, la période estivale est là pour ça, et puis respirez en grand, mais renseignez-vous, on reparle d'Atmos France, ATMO sur leur site, et il y a énormément d'informations pour cela, également l'ARS, et on parlait du RNSA, Réseau National de Santé Aérobiologique. Bon air à vous, mon cher Bruno, bon air, respirez bien, chers auditrices, chers auditeurs, à très bientôt, c'est élémentaire.
Élément R, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.